Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast des maternelles, celui du vendredi. Le podcast des maternelles où tous les jours de la semaine, on réécoute ici tranquillement l'une des séquences fortes de l'émission Les yeux dans les yeux, témoignage d'Agathe Le Caron. Aujourd'hui, un sujet qui, j'en suis sûr, va scotcher tout le monde, car peu de gens le savent, il faut bien le reconnaître, il est possible d'allaiter sans avoir été enceinte. Oui, le mystère, mais aussi la magie du corps humain, surtout du corps de la femme d'ailleurs. Vous allez tout comprendre en écoutant Mona qui est avec Agathe Le Caron.
Bonjour, bonjour Mona, merci d'être sur ce plateau. Alors vous êtes la maman de Isaïe qui a aujourd'hui 20 mois. Alors quand votre femme Catherine est tombée enceinte, vous avez décidé d'allaiter votre enfant à défaut de l'avoir porté. On va voir que ça vous a aussi permis de soulager votre femme, évidemment, et puis votre fils après une naissance qui a été un tout petit peu compliquée. Merci encore d'être avec nous ce matin parce que ce sont vraiment des histoires, c'est curieux, quoi. On ne peut pas imaginer que ça existe, ça, quand on ne connaît pas. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière, si vous le voulez bien, parce que pour vous, tout a commencé lors d'un voyage en Asie et votre rencontre avec votre femme, Catherine. Comment ça s'est passé, cette rencontre, cette histoire d'amour?
Voilà, je tombais nez à nez avec Catherine, qui était allemande et qui voyageait depuis longtemps en Thaïlande. Et j'ai eu le coup de foudre. Et donc, je la suis partout, dans tous ses voyages, jusqu'à ce qu'on s'installe au Népal pendant plusieurs mois ensemble.
Et alors, à quel moment est-ce que vous avez commencé à envisager de fonder une famille, toutes les deux?
Alors, au Népal, c'était l'année où il y a eu un gros tremblement de terre. Et nous, ensemble, on a choisi de rester, de faire ce qu'on pouvait. On a créé une asso qui s'appelle Sambhava. Et on a créé une maison d'enfants. Et on est devenus, en fait, parents. Malgré nous, on s'est retrouvés à la tête d'une immense famille. Et ça nous a plu, ce rôle. On était bien dans ce rôle et ça marchait bien. Et c'est naturellement que quand ça allait bien, les enfants, quand ils ont grandi, on s'est dit, c'est le moment d'ajouter un petit dernier.
Donc, vous avez débuté un parcours PMA en 2018, c'est bien ça?
C'est ça.
Et ça va, ça s'est bien passé?
Ça s'est très bien passé. On s'est installé à Berlin parce que là-bas, c'était légal. Et on a commencé le parcours de PMA en novembre. C'est Catherine qui a porté le premier enfant. Et Catherine était enceinte en mars, le jour de notre départ au Népal. On a fait clinique aéroport.
Alors, comment vous est venue cette idée d'allaiter votre bébé alors que vous ne l'avez pas porté?
Voilà. Alors moi, dans mon imaginaire, à moi, depuis toujours, j'allais être maman. J'allais être maman, j'allais porter mon enfant, j'allais accoucher et j'allais l'allaiter. Et c'était difficile, en fait, pendant la grossesse, que de trouver ma place en tant que coparent, de trouver ma place à côté de la grossesse de Catherine. Et j'ai commencé à nourrir l'idée de dire j'ai envie de l'allaiter, j'ai envie d'être mère comme je l'avais imaginé. Et j'ai pas envie de devoir le ramener à Catherine pour pouvoir le nourrir, j'ai envie de pouvoir l'emmener, voilà. Et donc, j'en ai pas beaucoup parlé au début parce que je savais pas si c'était légal, je savais pas si c'était faisable, si c'était possible, je savais
rien.
Ah
oui, donc vous aviez même jamais entendu parler de la possibilité de le faire, c'était
j'avais une vague idée, je savais pas, j'en savais très peu en fait. Et j'ai commencé à en parler et je me suis rendu compte que c'était assez tabou comme sujet, que c'était pas vraiment socialement acceptable en fait. Et du coup, c'est que quand Catherine était enceinte de 7 mois et demi, en prépa à l'accouchement, que j'en ai parlé vraiment ouvertement pour la première fois. Et là, je suis tombée sur une super sage-femme qui a dit « Mais bien sûr, bien sûr qu'il faut faire ça, évidemment !» Et donc là, branle-bas de combat, elle nous a trouvé la spécialiste de la lactation induite en Allemagne, qui est géniale, qui travaille avec une gynéco, et on a lancé le projet.
Alors concrètement, comment est-ce que vous avez fait pour déclencher la lactation? Comment ça se passe physiquement?
Alors, c'est un protocole qui a été établi par Jack Newman et c'est un pédiatre canadien qui est spécialiste en allaitement. Ça allie la prise d'un médicament qui est à la base un antinauséeux mais qui a pour effet secondaire de stimuler la prolactine avec soit des hormones si on est plus tôt que moi dans la prise de décision, moi j'en ai pas pris, et avec en stimulant, en tirant son lait en fait.
Alors, on prend le médicament et après on prend un tire-lait.
Et on tire son lait
avant la naissance, pour préparer la lactation,
minimum,
c'est ça?
Minimum 6 semaines avant la naissance.
Minimum 6 semaines avant, d'accord.
Voilà. Et du coup, moi, en 4 jours, j'avais du lait. Moi, ça a marché, mais tout de suite.
Incroyable. Comment ça s'est passé, l'accouchement de Catherine?
Alors, l'accouchement de Catherine s'est très mal passé. Ouais. On avait fantasmé un accouchement. Moi, j'avais fait une formation de doula pour l'accompagner. On avait une maison de naissance géniale. Et finalement, ça a été très long. Ça a duré 48 heures. Et quand le bébé est né, finalement, il allait très, très mal. Il était très malade. Et Catherine aussi. Il y a eu 4 heures de poussée de sortie, enfin, c'était un carnage. Du coup, moi, j'ai enrôlé mon bébé dans des couvertures, on est parti à pied avec une sage-femme pour l'amener en réanimation. Et j'ai laissé Catherine à la maison d'essence qui allait vraiment mal. Ouais.
Voilà, bon, et alors du coup, là se pose la question justement, parce qu'il ne va pas bien encore plus de l'allaiter. Est-ce que le corps médical vous a suivi ?
Oui, alors déjà, la première question qu'on m'a posée arrivée en réanimation, c'est mais est-ce que vous avez des droits sur cet enfant ?
Oui.
Et non, en fait. Moi, j'avais mes seins gorgés de lait, j'étais remplie d'amour, j'avais mon bébé qui était vraiment, vraiment au plus mal, dont le pronostic vital était engagé, et j'étais rien, j'étais personne. Donc, je suis restée dans le couloir pendant une heure. Et voilà, après, quand il est revenu, il est revenu dans une couveuse fermée, il allait vraiment, vraiment pas bien, on pouvait pas le toucher. Il allait en soins intensifs, et là, il savait pas qui j'étais. Donc, l'infirmière m'a dit, bon, il va très mal, il va lui falloir du lait maternel, donc il faut pomper. Donc moi, j'étais prête. Donc moi, j'ai commencé à faire des biberons. Catherine n'était pas encore arrivée, encore pendant plusieurs heures. Et ils n'étaient pas informés, ils n'étaient pas préparés. Mais c'est vrai que quand ils ont compris que ce n'était pas moi la mère biologique, là, ils n'étaient pas d'accord.
Ils ont carrément mis un nom ?
Ils ont mis un nom. Donc on a reçu le lendemain matin, Isaïe ne respirait toujours pas par lui-même. Le lendemain matin, il y a la cadre qui était aussi référente à l'allaitement, qui est rentrée, qui a parlé à Catherine en allemand, qui a dit « On ne donnera pas du lait d'étrangère à votre bébé ». Et là, nous, on était déjà choqués par les 48 heures qu'on venait de passer et par...
Par le mot étrangère.
Et là, c'était le coup de massue.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Là, c'est le coup de massue parce que le bébé allait très mal, Catherine allait très mal, et moi, j'étais rien ni personne, et je pouvais même pas faire ce que j'avais prévu de faire pour les soutenir un petit peu. Et Catherine avait très peu de colostrum, elle était vraiment, vraiment pas bien. Du coup, là, ils ont dit non. Ils ont dit non. Ils ont dit non seulement non, mais en plus, vous avez pas le droit de le prendre en peau à peau parce que deux mamans, c'est beaucoup trop stressant. Pour cet enfant.
Alors, comment vous avez fait ?
Et là, c'est les sages-femmes qui ont été géniales, qui ont bossé en interne, qui ont fait appeler des gens au chef de service, qui m'ont emmenée dans un couloir faire une prise de sang clandestine pour prouver que je n'avais pas le sida, qui ont vraiment géré.
Est-ce que c'était ça leur inquiétude, c'est que vous soyez séropositive ?
Ça, l'inquiétude pour le lait, mais pour le peau à peau.
Oui, c'est ça.
C'était...
Donc, vous avez fait une prise de sang
J'ai fait une prise de sang.
Pour faire un test HIV.
Voilà. Et du coup, bien sûr, c'était bon. Et du coup, elles n'avaient pas plus tellement le choix. Catherine n'avait pas de colostrum. Et nous. Et donc, elles ont dit OK, on va lui donner le lait par la sonde. Et plus tard, on a enlevé la sonde. Et ils ont dit non, mais toujours pas. On va le donner par biberon. On ne veut pas que vous le mettiez au sein. Donc.
Bon, donc, vous lui avez donné quand même. Mais le biberon, mais quand même votre lait.
Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là. Vous êtes sentie pleinement mère.
Pas encore.
Bah
là, c'était pas une histoire de lait pour moi, c'était une histoire de comment je suis là pour mon bébé. Donc après, on a changé de service. On est passé en pédiatrie et là, il y avait 2 lits. Donc là, c'est une interne en pédiatrie géniale qui a organisé ça. Et donc là, les portes fermées, elle a dit, on vous regarde plus, faites ce que vous voulez. Et donc là, j'ai pu donner ma première tétée à mon bébé.
Alors, cette première tétée.
C'était génial parce que c'était un bébé qu'on n'avait pas pu toucher, qui allait très mal. Et tout d'un coup, j'avais un bébé au sein qui prenait tout de suite sans aide, sans rien, et qui s'est endormi, qui a tété pendant des heures et qui s'est mis tout doucement à respirer tranquillement. C'était merveilleux. C'était merveilleux.
Alors, induire la lactation, mais finalement, on peut le dire, ça aura sauvé votre bébé. Hein. Après, vous avez mis en place une lactation à deux, c'est ça ? Comment est-ce que vous êtes organisée au retour à la maison ?
Alors, c'est les médecins qui ont sauvé mon bébé, mais c'est sûr que moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui donner ce qu'on avait de meilleur. À la maison, c'était génial parce qu'en fait, au départ, je pensais qu'à l'été, ce serait pour moi, pour ma place. Et on s'est vite rendu compte que non, c'était pour tout le monde parce que Catherine, elle pouvait dormir. Moi, je pouvais la laisser dormir autant qu'elle voulait. Je pouvais assurer une grande partie de la nuit. Et on a allaité le plus naturellement du monde, comme on voulait. Quoi. Qui avait du lait, qui était réveillé, qui en avait envie. Et lui, il était dans son royaume de lait, le bébé le plus satisfait du monde.
Ah bah lui, il ne pouvait pas manquer de lait, quoi. C'est ça qui est fantastique.
Non, non. Ah, lui,
vous êtes
parti
en voyage, d'ailleurs, après. Et voilà. Ça vous a permis d'être tranquille, hein, pas un passage par la pharmacie, c'est parfait.
De toute façon, c'était fermé. On est parti au Népal quand il avait 3 mois, rejoindre tout le reste des enfants, de notre maison d'enfants. Et là, confinement. Là, tous les magasins sont fermés. Au Népal, ce n'était pas comme en France. Rien n'était ouvert. On était enfermés dans la maison pendant 3 mois et demi. Et donc là, si on n'avait pas allaité, on n'aurait pas pu acheter du lait en poudre, on n'aurait pas pu trouver de l'eau minérale propre pour pouvoir lui donner à manger. Donc ça a été très important finalement.
Comment vous allez tous les trois aujourd'hui ?
Et ben aujourd'hui, ça va super bien. On a un petit garçon qui est hyper gentil, qui est en pleine forme, qui est très aimant.
Vous avez allaité combien de temps ?
J'ai allaité 9 mois. Et après, j'ai perdu mon lait parce que j'étais hospitalisée. Donc pendant une semaine, j'étais pas avec mon bébé, donc j'ai perdu mon lait. Et de temps en temps, je donne un peu des tétés de confort juste pour des tétés câlins, mais... mais j'ai eu du lait pendant 9 mois.
Bah, quelle belle histoire d'amour, tous les trois. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez donner des conseils pour conclure à toutes les personnes qui voudraient faire comme vous ?
Le premier conseil, c'est d'oser et c'est d'être informé. C'est de trouver des professionnels qui sont vraiment informés des protocoles et de choisir ce qu'on a envie de faire. Si on a envie de nourrir son bébé, il faut suivre des protocoles qui marchent. Si on a envie de téter câlin, et ben on peut faire juste des tétés câlins et mettre le bébé au sein. Et il ne faut pas avoir peur parce que la société, les regards sont en train de changer. Au départ, bien sûr, ça paraît bizarre, ça paraît peut-être malsain. Et finalement, quand on a le bébé au sein et que le bébé va bien et que le bébé est pleinement satisfait, ne pleure jamais, ça met tout le monde d'accord. Donc il faut oser, il faut s'informer et il faut y aller.
Merci beaucoup, Mona, d'être venue raconter cette formidable histoire. C'est évidemment porteur d'espoir pour énormément de mamans qui nous regardent. Évidemment, vous dites bonjour à Catherine et à Isaïe. Pour nous, tout de suite, on va retrouver Oriane Emmanuel-Émile, qui est consultante en lactation, puisqu'évidemment, tout ça pose beaucoup de questions. Merci, Mona.
Merci beaucoup à vous.
Bonjour Oriane Emmanuel-Émile, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes consultante en lactation, je le disais, certifiée IBCLC et diététicienne. Ça veut dire que vous accompagnez les mamans en prénatal, pendant l'allaitement et jusqu'au sevrage, qui est encore une autre paire de manches. Un grand merci d'être avec nous pour nous éclairer sur ce sujet, parce que d'abord, il y a plein d'idées reçues liées à ces lactations induites, et puis en plus, forcément, ça pose question. Donc, c'est loin d'être connu de tous, on l'a vu avec le témoignage de Mona, même elle avait ce sentiment, cette envie, mais ne savait pas trop vers qui se tourner. Même dans le corps médical, j'ai l'impression que personne n'est informé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça fonctionne physiquement ?
Oui, alors c'est vrai que les mamans qui souhaitent mettre en place la lactation induite peuvent se trouver un petit peu démunis par l'accompagnement des professionnels. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Lorsqu'on est enceinte, on est dans une ambiance hormonale et puis donc, au moment de la délivrance du placenta, les hormones font que la lactation peut commencer. Donc quand on n'a pas porté la vie, il y a un protocole donc, qui a été mis en place par le docteur Newman, comme le disait Mona. Alors si on a le temps de prendre le temps, on commence dès le moment de la conception, voire 6 mois avant la naissance de l'enfant, par la prise d'une pilule contraceptive pour justement plonger le corps dans une ambiance hormonale ressemblant à la grossesse. 6 semaines avant l'arrivée de bébé, on commence donc la prise du médicament, la dompéridone, puis également le tire-lait toutes les 3 heures pour stimuler la lactation. Après, forcément, il y a autant de protocoles qu'il y a d'histoires de vie, finalement.
Là, c'est quand même lourd, c'est peut-être pas le bon mot, lourd, mais c'est quand même quelque chose d'important. Là.
Oui, et puis comme Mona et Catherine, on n'a pas forcément l'idée d'induire cette lactation dès le moment de la conception. Donc, on n'a pas forcément 6 à 9 mois. Voilà. Ouais. Donc, forcément, le protocole global est celui-ci, mais après, on s'adapte en fonction du temps qu'on a. Et pareil pour les mamans qui adoptent, par exemple, qui ne savent pas à quel moment elles vont pouvoir avoir leur enfant. Forcément, on s'adapte.
Justement, on a une question de Justine. À qui s'adresse la lactation induite ?
Eh ben, c'est pour les femmes qui n'ont justement pas porté la vie pour ce bébé à nourrir. Donc les mères de couples homoparentaux comme Mona et Catherine ou les mères adoptives pour lesquelles elles vont nourrir.
Et ça, c'est extraordinaire.
Oui. Parce que c'est vrai que ça permet vraiment de elles le disent, de créer un lien vraiment très fort entre cet enfant.
Oui, se légitimer aussi en tant que mère. Juste un instant, mais il y a des clichés, des histoires, des légendes qu'on entend, des grands-mères qui tout à coup, à force d'entendre pleurer leur petit bébé, enfin leur petit enfant, auraient eu des montées de lait. C'est vrai ça ?
Oui, c'est tout à fait faisable.
Sans médicaments ?
C'est faisable. Après, ce sera effectivement juste quelques gouttes. On ne pourra pas induire une lactation de cette manière. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des pays dans le monde avec des situations particulières où la mère, par exemple, va malheureusement mourir, ou c'est la tante ou la grand-mère qui va reprendre la lactation. Ça s'est déjà vu.
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a rien de nouveau, notamment en France ? Parce que c'est ce que vous me disiez là. Tout à l'heure, les nounous, on les appelle les nounous parce qu'à la base, c'était des nourricières.
Oui,
donc elles
exactement.
Nourrissaient les bébés qu'elles avaient en garde pendant plusieurs jours de suite. C'était elles qui les... sans les avoir portés.
Exactement. Alors souvent, c'était quand même des mamans. Quand même,
des jeunes mamans qui profitaient de leur lait.
Voilà, exactement. Ouais. Et qui étaient donc rémunérées pour nourrir les enfants de la haute
c'était
bourgeoisie.
Rémunéré. D'accord, c'est une question
d'argent. Benjamin est naïf et il est très altruiste, donc je ne peux pas imaginer.
Bien sûr. On a une question vidéo reçue de Cécile et Sonia.
Bonjour à tous. Nous sommes maman d'une petite fille de 17 mois. Je ne l'ai pas portée, mais j'ai pu allaiter à l'aide d'un protocole médicamenteux. Je suis enceinte de notre deuxième bébé prévu pour avril et c'est tout naturellement que nous souhaitons allaiter à deux. Étant donné que j'allaite toujours notre fille, faut-il que je continue jusqu'à la naissance? Ou si j'arrête prochainement, est-ce que je pourrai allaiter notre deuxième enfant sans suivre de traitement? Quelle serait la meilleure méthode pour notre futur bébé? Merci d'avance.
Moi, j'aime bien. Dans les bois, on a un beau cadre, on est bien. Est-ce que vous pouvez les conseiller?
Eh bien, déjà, c'est un super projet à mettre en place. Donc, comme là, on a déjà un allaitement qui est en cours, il faut profiter de ce lait qui est déjà en train de nourrir un autre bébé. Par contre, c'est vrai que comme cette maman n'aura pas été dans une ambiance hormonale de grossesse, le lait ne repassera pas sous forme de colostrum, qui est le lait, on va dire, le premier lait, et donc sera moins adapté à un tout nouveau-né. Mais si dans leur projet, c'est que cet enfant soit exclusivement nourri au lait de mère, ça reste toujours plus intéressant que de prendre le relais bien avec un lait.
Le colostrum, de toute façon, c'est 24 heures, non?
Ça dépend. Effectivement, c'est entre 24 et 72 heures à peu près.
Oui, donc c'est très court.
Voilà.
On parle beaucoup de ce médicament depuis tout à l'heure. Camille nous demande s'il peut être dangereux.
Alors, ça reste un médicament avec ses effets secondaires qui ont été longuement étudiés. Donc, la dernière étude en France date de 2014 environ, qui a montré qu'il pouvait y avoir chez les personnes déjà sensibles au niveau cardiaque des effets de tachycardie, etc. Mais ça a été donc testé chez une population déjà sensible et assez âgée. Tranche d'âge qui ne correspond pas de toute façon aux mères allaitantes. Donc, dans tous les cas, on ne s'auto-médicamente pas, on prend contact avec son médecin pour quand même faire un bilan de santé pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction avec d'autres médicaments, par exemple.
Alors, je suis très content parce que Julia a posé la question que je voulais poser tout à l'heure et je me suis dit non, t'auras l'air d'un débile. Merci Julia, du coup, on n'est pas débile. Quand on suit le... Non, pardon. Est-ce qu'un homme peut aussi produire du lait en suivant les protocoles de lactation induite?
Oui, ça s'est déjà vu. Et si?
Mais alors là...
Ouais. Finalement, avec la prise donc, de la pilule contraceptive, du médicament, la dompéridone et la stimulation, beaucoup de peau à peau, beaucoup de contact avec bébé, ça fonctionne.
Et suffisamment pour nourrir un...
Pas forcément, mais... partiellement, en tout cas, tout dépend après des projets des parents. Mais ça s'est déjà vu aux États-Unis en particulier.
J'ai des images mentales, je ne sais pas pourquoi, avec vous, Benjamin. Mais vraiment, c'est vous qui apparaissez dans mon cerveau, c'est marrant.
Docteur, vous avez déjà vu ça en consultation?
Non, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses aujourd'hui.
Ouais. Vous avez déjà allaité un enfant?
Avec les inductions, oui, évidemment.
Régulièrement.
Mais c'est très étonnant et c'est vrai que c'est des choses assez récentes, hein, nouvelles. Et on maîtrise les inductions hormonales, les associations de, comme vous le disiez avant. C'est oui, c'est étonnant.
Il y avait un film avec Arnold Schwarzenegger comme ça. Comment il s'appelait?
Ah oui.
Où il allaitait. Ça
ne
dirait
pas.
Ouais. Voilà. Bon, on n'a pas la ref.
Anaïs justement nous dit c'est un projet pour moi car ma femme est enceinte. Quel spécialiste consulter?
Des sages-femmes, médecins, des pédiatres parfois.
Tout le monde est
aussi,
formé.
Des consultantes en lactation. Alors, tout le monde n'est pas forcément formé à ça. Après, tout dépend de, je dirais, de l'ouverture d'esprit des différents professionnels qu'on va rencontrer. Mmh. On n'est pas forcément sensibilisé à ça au départ. Et puis, si on a un couple qui se présente à nous, on va aller se renseigner, etc. Voilà, mais en tout cas, quelqu'un qui est capable de prescrire et aussi quelqu'un qui est capable de soutenir. Par exemple, moi, je ne suis pas prescripteur, mais c'est vrai que le soutien dans ce genre de projet va être aussi très important.
Et en parlant de soutien, le rôle du pédiatre, il est hyper important aussi, non? J'imagine quand vous voyez beaucoup de jeunes mamans qui vous expliquent les difficultés, la fatigue.
On a fait des progrès. Moi, je vois, il y a 20 ou 30 ans, alors à la fac, on ne nous forme pas hein, sur l'allaitement. Ça commence un peu, il y a quelques heures, c'est très pauvre.
2 heures, je crois.
Oh, c'est lamentable.
2 heures sur 10 ans d'études, c'est pas mal quand même. Oh.
Et du coup, moi je me souviens, il y a 30 ans, quand j'avais des mamans qui venaient, qui me posaient plein de questions sur l'allaitement, moi j'étais formé pour faire des diagnostics de pyélonéphrite, de machin et trucs, des choses un peu, voilà, notre métier. Mais on n'était pas formé à ça, c'est quand même grave. Heureusement, les choses ont évolué. Mais je vois encore des confrères pédiatres, alors... plutôt un peu plus âgés, mais qui, ça les saoule. Ils n'ont pas forcément envie, ils ne prennent pas le temps de donner des conseils. Et c'est essentiel, on en parlait tout à l'heure, essentiel.
Mais c'est surtout que moi, par exemple, le pédiatre, je l'ai vu qu'au 2 mois, je crois, de l'enfant pour ses vaccins. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire avant.
Ah, mais on est en contact très tôt. Par exemple, à la maternité, quand moi je fais la première visite du nouveau-né, en général c'est dans les 24 premières heures ou 36 premières heures, on est là, on a le bébé, on a maman, papa, on pose des questions. Et la première question que je pose toujours, mais toujours toujours avec énormément de bienveillance. On l'a déjà un peu abordé en salle d'accouchement. Oui, oui. C'est « Ah, il est beau. Alors dites-moi, comment vous l'alimentez ?» On essaye de faire « soft ». Et alors, il y a toujours deux réponses. Ah ben, ce sera le lait artificiel, parce qu'il y en a qui utilisent encore ce mot-là, on n'utilise plus ça. Ou alors, il y en a d'autres, les mamans, qui disent « Ah, docteur, j'aimerais bien essayer d'arriver à l'allaiter. » Ah, il y a déjà trop de choses. Ouais. On sent qu'il y a déjà une énorme pression, et c'est là qu'on va déminer. Ouais. Et on a tous un rôle très important à jouer. Pas seulement pédiatre, hein, tout le monde.
Et Yasmine qui dit qu'elle a vu son pédiatre au bout de 2 mois, c'est parce que Yasmine, elle est à l'arrache, parce qu'en vrai, c'est au bout d'une semaine, non, le premier rendez-vous.
Non, mais moi, j'étais complètement à l'arrache, absolument. Ah non, non, mais sérieusement.
On peut rappeler les...
À mon avis, c'était un pédiatre célèbre où il n'y avait pas de rendez-vous possible avant 2 mois, c'est pas possible.
Non, pas du tout, c'est que je ne me suis pas informée. J'ai vu un pédiatre, évidemment, à la maternité, mais c'est le pédiatre qui était là à la maternité.
Mais
et après,
pas...
je me suis dit, ah, des vaccins, il faut faire des vaccins, j'appelle un pédiatre. Ouais, ouais. J'étais à la ramasse.
Ah, c'est dommage.
Et je ne suis pas la seule,
quand
je pense.
Quand on voit sur un trampoline, on peut croire que c'est un trait de votre personnalité, tout ce qui est ramasse.
Est-ce qu'on peut, on peut rappeler les grandes, l'agenda pédiatrique? C'est-à-dire un premier rendez-vous au bout d'une semaine?
Premier contact avec un... Alors moi, je milite pour qu'il y ait une préparation au pédiatre. Pendant la grossesse.
Ah oui, avant l'accouchement.
Ah oui, moi j'aimerais bien me faire le porte-flambeau de ça. Alors évidemment, on a des difficultés, avoir des rendez-vous, tout ça, on est très demandé, mais bon. Mais je trouve que c'est pas mal de rencontrer, comme on rencontre une sage-femme, quand on... le pédiatre, une fois. C'est pas mal, parce qu'on va pouvoir déminer des trucs. Ensuite, on le voit à la naissance, à la maternité, une ou deux fois avant la sortie, c'est sûr. Et après, c'est grosso modo une fois par mois jusqu'à 7 mois, puis à 9 mois, et 11 et 12. Voilà, en gros, c'est ça.
Auriane, revenons-en à la lactation induite. Pauline vous demande s'il faut suivre un régime alimentaire spécifique.
Pas particulièrement, tout comme au cours d'un allaitement classique, je dirais. Il n'y a pas d'interdit alimentaire, pas de choses à privilégier. Si la maman veut s'aider encore plus, par contre, pour mettre toutes les chances de son côté et booster encore plus la lactation, elle peut consommer des aliments qui sont connus pour stimuler un petit peu tout ce qui va être, par exemple, à base d'amandes, de fenugrec, à base de malt, d'orge, d'avoine.
Que des trucs qu'on va rigoler. Quoi.
Voilà.
Il n'y a rien d'un peu plus sexy, je ne sais pas.
Non. Il n'y a rien.
Non, mais c'est
de...
bien, c'est bon aussi, l'avoine.
Mais voilà, tout ça ne fait pas le job tout seul. C'est vraiment... ces petites choses qui boostent plus le bébé au sein.
En termes
plus
de boissons, les tisanes d'allaitement, ça marche ou c'est...
Poudre de perlimpinpin, comme je dis.
C'est vrai.
Voilà.
Oui, ah, Benjamin pose cette question au cas où le spritz pourrait être intéressant. Mais
Non, c'est pas, c'est trop dilué pour que ce soit efficace. Oui. Ouais, non.
La bière. Non, je rigole. Mais autrefois. On disait qu'il fallait boire de la bière.
Oui,
quand on y pense.
Alors qu'il faut en boire avec modération, mon Dieu.
Ouais. Bien sûr, mais de nos jours, il y a beaucoup de références sans alcool.
La bière sans alcool.
Ouais. Et donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent être sensibles à ça.
Sonia nous demande, quand on suit le protocole médicamenteux de la lactation induite, jusqu'à quand il faut le poursuivre, ce traitement?
Eh bien, tout dépend de la lactation qui va être mise en place. Est-ce que ça fonctionne vraiment très bien et du coup, on peut ralentir progressivement la prise du médicament, donc le domperidone, ou est-ce qu'il faut continuer? Tout ça, ça dépend vraiment des situations. Mais c'est vrai qu'en général, c'est quand même à garder un maximum le temps de la lactation. Et puis, au fur et à mesure, on diminue. On n'arrête pas du jour au lendemain, on diminue progressivement.
Et c'est une lactation qui peut être aussi longue qu'une lactation classique?
Oui, tout à fait. À partir du moment où il y a de la stimulation, de la demande, le corps va produire en fonction. Oui, tout à fait.
On va passer aux questions sur l'allaitement en général, parce que vous vous en doutez, énormément de questions, n'hésitez pas à continuer. Clarisse vous demande quelles sont les raisons qui peuvent expliquer l'échec d'un allaitement. Peut-être que vous pourrez d'ailleurs tous les deux donner votre point de vue.
Oui, ben ça c'est vrai qu'il peut y en avoir beaucoup. On sait que l'une des la partie la plus la principale partie de comment dire raison d'une réussite, on va dire.
D'accord, c'est mieux de le tourner comme ça.
C'est vraiment l'accompagnement et le soutien. Ouais. À partir du moment où, et par les professionnels, et par notre entourage, on va être suffisamment soutenu.
Le coparent, quoi, le papa, il faut qu'il
soit... Oui, mais même la famille, la grand-mère, la belle-mère, etc. Coucou, belle-maman. Tout ça, c'est vrai que ça va être important dans la réussite de ce projet d'allaitement.
Il y a encore trop de réflexions sur l'allaitement. Tout le monde donne un peu son point de vue. On voit régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux, des vidéos de femmes qui racontent la belle-mère, la copine, etc. Pourquoi t'allaites, pourquoi t'allaites pas? Ça, c'est encore trop présent?
Oui, trop. D'où l'importance vraiment d'aller se renseigner pendant la grossesse, avant même l'arrivée de bébé, auprès de professionnels réellement formés à l'allaitement, des consultantes en lactation certifiées, des sages-femmes qui ont fait aussi des spécialisations, des médecins qui ont fait des spécialisations, etc. Ça, ça va être vraiment important pour justement démêler un petit peu toutes les légendes urbaines qui tournent un petit peu autour de l'allaitement.
Ouais. Et il y a encore cette légende urbaine que l'allaitement serait sale ou en tout cas pas naturel. On a encore vu cet été. Il y a régulièrement là aussi des témoignages de femmes qui allaitent dans la rue, dans un bar, dans les transports. C'était dans les transports en commun, non, cet été.
En fait, on vient les pourrir.
Quoi. Ouais. Ça arrive encore.
C'est
trop.
Tout le problème de l'hypersexualisation des corps des femmes en particulier. Et voilà, c'est vrai que c'est ce côté naturel, on va dire, et banal et finalement oui classique de l'allaitement, de nourrir son enfant, est un petit peu perdu. Ouais.
Une question d'Alexandre sur l'allaitement dans le cadre d'une adoption. Peut-on allaiter lorsqu'on adopte et que l'enfant a environ 4 mois et qu'on ne pourra se préparer que 10 jours avant ?
C'est
vrai qu'il y a un timing.
Ouais, c'est serré, effectivement, mais c'est faisable. Donc, avec l'aide du médicament, la stimulation, un maximum de contact avec bébé s'il l'accepte une fois qu'il est arrivé. Mmh. Et peut-être qu'au départ, ce ne sera pas un allaitement au sein, parce que c'est vrai que peut-être que l'enfant aura du mal à avoir un contact aussi charnel et fusionnel avec son parent. Donc, peut-être qu'au départ, ce sera via un biberon, et puis qu'au fur et à mesure que les liens naîtront entre ce couple maman, papa, bébé, les choses pourront se mettre en place avec un allaitement au sein, quel que soit l'âge de l'enfant finalement.
D'accord. Une question qu'on reçoit à l'instant qui est intéressante, quelle est la différence entre lactation induite et relactation ?
Alors, la lactation induite, c'est vraiment lorsqu'il n'y a jamais eu de lactation initiée pour cet enfant à nourrir. Donc, soit qu'on n'a pas apporté la vie ou qu'on adopte. Une relactation, c'est qu'on avait déjà initié une lactation pour le bébé à nourrir et qu'on l'a arrêtée pour une raison X ou Y et qu'on souhaite la relancer. Et donc, là, du coup, c'est vraiment un protocole assez différent puisque la glande mammaire a déjà travaillé, le corps sait déjà comment produire du lait.
C'est plus facile, entre guillemets.
Ça peut être plus simple. Après, on n'arrivera pas forcément à une lactation complète, mais en tout cas partielle. Déjà, ça peut effectivement être le cas.
Merci beaucoup. Et puis, pour conclure, je crois que c'est très important de dire à nos téléspectateurs, enfin à nos ordi-spectateurs ou à nos... puisque ils ne regardent pas la télé, là. À nos numéro-spectateurs, que si jamais on a la moindre difficulté, évidemment, on peut se tourner vers la PMI qui est près de chez soi, vers une consultante en lactation, vers une sage-femme. Enfin, vraiment, il ne faut pas hésiter à se faire aider, parce que ça vaut le coup, quand même, si on a envie d'allaiter, d'insister un tout petit peu. Merci beaucoup, Oriane, Emmanuel, Émile, pour ces réponses précises.
Voilà, merci beaucoup à Oriane, Emmanuel, Émile. Merci beaucoup à Arnaud Pfersdorf, au docteur Arnaud Pfersdorf, notre docteur, notre pédiatre. Et bien sûr, merci à Mona d'être venue nous voir en ce vendredi. C'était en direct à partir de 9h25 sur France 2 et c'était un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette première semaine du retour de la Maison des Maternelles, donc sur France 2 et évidemment du podcast des maternelles. Alors déjà vous dire merci parce qu'on est très contents tous. Ce podcast marche très bien, donc ça nous fait hyper plaisir. Vous êtes nombreux notamment à nous dire que à 9h25 vous êtes au travail et donc ça vous permet le soir en rentrant par exemple d'écouter ce podcast dans la voiture, donc ça nous fait vraiment vraiment très plaisir. On se retrouve lundi prochain à partir de 9h25 sur France 2 avec Agathe Le Caron. Et puis bien sûr, en podcast, d'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer des idées de sujets. Si vous souhaitez voir des sujets traités, notamment sous la forme de podcast, vous n'hésitez pas à vous me contacter via Instagram. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde. À lundi, j'espère.